Je veux que mes filles puissent profiter de la vie comme les autres enfants. Je ne veux pas qu'elles souffrent comme moi j'ai souffert. La vie a été dure pour elles. Je veux qu'elles aient un avenir.
Peut-être que la majorité des Syriens voudront rentrer chez eux, mais même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, leur réinstallation en Syrie prendra peut-être 20 ans.
Aujourd'hui, je pense qu'on a l'opportunité de mettre en place un système d'aide humanitaire qui n'a jamais été fait au monde. C'est presque une politique publique humanitaire.
C'est de tradition une terre d'accueil. Depuis 1923, date de la fondation de la République laïque de Turquie, pas moins de 2,5 millions d'étrangers s'y sont installés. Beaucoup ont acquis la nationalité turque en 1989, par exemple. Au moment de la chute du mur, 300 000 Bulgares sont arrivés. Il faut dire que la plupart étaient turcophones, ce qui facilite les choses. Quand en 2011, la guerre en Syrie éclate à la frontière, le président turc pense d'abord pouvoir ramener son voisin à la réalité. C'est aussi son meilleur allié à l'époque, et en 6 mois, le ministre turc des Affaires étrangères fait 19 fois le voyage à Damas, mais en vain. Il faut donc se résoudre à exiger le départ de Bachar al-Assad, à ouvrir les frontières turques au point d'installer le CNS, l'opposition rebelle syrienne, en Turquie même. Pendant plus de 4 ans, le président Erdogan, qui a la main mise sur les questions migratoires, a voulu gérer seul cet afflux. Mais aujourd'hui, face à une guerre qui s'éternise, les presque 3 millions d'hommes, de femmes, d'enfants syriens deviennent une charge qu'il peut monnayer. Ankara accueille plus de réfugiés syriens que n'importe quel pays au monde. Alors, tendant à l'Europe un miroir où elle lit son égoïsme et sa propre frilosité, le chef de l'État turc a pu négocier depuis l'automne 2015 une manne financière importante. Presque 3 milliards d'euros ont déjà été alloués pour qu'Ankara tienne mieux ses frontières, empêche les migrants de rejoindre l'Europe et conserve sur son sol cette misère que nous ne saurions accueillir. Quel usage font les Turcs de ces sommes? Comment négocier avec un président Erdogan devenu par ailleurs de plus en plus autoritaire, auteur de purges spectaculaires et osant même récemment traiter l'Europe de nazie? Crise des réfugiés en Turquie, le nouveau modèle d'assistance européenne, c'est un magazine de la rédaction signée Marie-Pierre Véraud. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes en compagnie ce soir de Bayram Balci, qui est chercheur aux séries à Sciences Po. Bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir.
Je peux dire que vous avez aussi travaillé à l'Institut français des études anatoliennes à Istanbul et puis aussi à la Carnegie Endowment for Peace à Washington. Et vous êtes aussi l'auteur, alors ça c'était tout récemment avec Juliette Tollé, d'une étude du série Sciences Po sur la Turquie face aux réfugiés syriens entre humanitaire et instrumentalisation politique. Et nous sommes aussi ce soir avec Geneviève Jacques. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la CIMAD, qui est une association qui travaille pour la dignité et le droit des personnes migrantes et des personnes réfugiées. Et nous sommes bien sûr avec Marie-Pierre Véraud. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Tara.
Vous revenez d'un voyage en Turquie où vous êtes allée voir sur le terrain où vont les milliards d'euros déjà dépensés par l'Union européenne pour aider justement à l'accueil des réfugiés syriens.
Oui, alors cet argent, Tara, ne va pas directement dans les poches du gouvernement turc. Il faut le rappeler, il est alloué à des programmes humanitaires qui ont été sélectionnés par l'Union européenne. Alors, sur ces 3 milliards, la moitié, 1 milliard et demi environ, a déjà été fléché vers des projets et 748 millions d'euros ont effectivement été déboursés. Alors, deux priorités, l'éducation, l'accès à l'école pour des enfants qui sont là depuis plusieurs années, mobilise les énergies et les fonds, et puis la santé, gros enjeu également avec une population de 3 millions de personnes dont les conditions de vie se sont au fil des ans précarisées et qui, rappelons-le, vit non pas dans des camps, seuls 10% des réfugiés y sont, mais dans les villes turques, grandes ou moins grandes. Alors je me suis d'abord rendue à Istanbul, qui a vu le nombre de réfugiés croître ces derniers mois, attirés par la perspective d'y trouver un travail. On estime qu'il y a plus de 450 000 Syriens dans la ville, et puis à Urfa, dans le sud, non loin de la frontière syrienne, où près d'un quart de la population est aujourd'hui syrienne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette crise dessine une nouvelle approche humanitaire de l'Union européenne. On travaille non plus dans l'urgence, mais à long terme, non plus projet par projet, mais dans une approche plus intégrée, plus globale. Et pourquoi cela? Parce que le constat désormais est partagé que beaucoup de ces réfugiés ne rentreront pas chez eux, ou alors pas avant plusieurs années. Il s'agit donc certes de les stabiliser, c'est le terme qui est employé, de les stabiliser en Turquie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne viennent pas jusqu'à chez nous, mais au-delà de favoriser leur insertion dans la société turque. Et pour pour cela, l'Union travaille en étroite coopération avec le gouvernement turc pour leur permettre l'accès aux aides sociales, par exemple. Elle finance la création d'un fichier qui recense l'ensemble des réfugiés avec leur nom, adresse, la composition de la famille, etc. Des données qui sont entrées dans les bases du gouvernement, dans les ordinateurs du ministère des Affaires sociales. Et cela peut soulever question quand on est face à un pouvoir dont on dénonce les dérives autoritaires.
Alors, on écoute votre reportage, Marie-Pierre, qui commence dans le centre Al-Farah à Istanbul.
Oui, c'est un des centres de soutien aux enfants et aux femmes créé par l'association Assam avec l'aide de l'UNICEF. Il s'adresse aux plus vulnérables, il propose des conseils aux parents en matière juridique ou de santé et des activités aux enfants.
On écoute votre reportage.
J'aime bien aller à l'école avec ma sœur, j'aime vraiment cela. Je voudrais être avocate plus tard. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je veux. Je voudrais être une personne juste et apporter la justice en tout.
Et comment se passent tes journées ?
Avant, j'allais au bazar vendre des légumes avec un marchand là-bas. Mais c'était vraiment dur. Je suis contente de ne plus devoir y travailler. Je suis heureuse que le centre nous aide pour que je puisse aller à l'école.
Tu voudrais rentrer en Syrie plus tard ?
Non, je ne veux pas rentrer en Syrie. Je veux rester ici. Tout ce que j'ai connu de bien, c'est ici que je l'ai connu. Il n'y a rien de bien en Syrie. Moi, je continue à penser à ce qui s'est passé. Ce que j'ai vu autour de moi, c'était les combats, la guerre. C'est horrible et ça me rend triste. Je ne veux plus y penser. Je suis ici en Turquie et c'est une vie différente.
Différente d'Alep, dont Aïcha est originaire. Sa maman, Fatma, est venue ce matin-là chercher conseil et assistance. Arrivée il y a 4 ans à Istanbul, elle essaie tant bien que mal de s'en sortir.
Je suis seule en Turquie avec mes 4 enfants. 2 filles de 10 et 12 ans et 2 garçons, 4 ans et 2 ans et demi.
Est-ce qu'ils vont à l'école ?
Non. Aïcha, par exemple, n'est pas allée à l'école. Elle m'a aidée quand je travaillais au bazar d'Istanbul. Et puis nous avons arrêté pour qu'elle puisse aller à l'école. Et elle y a été, mais pour une semaine seulement. Pour tout vous dire, je n'avais pas assez d'argent pour payer le transport, la carte de bus pour l'école. Donc on a dû arrêter au bout d'une semaine.
Et donc maintenant, elle travaille avec vous au bazar ?
Non, maintenant je travaille comme femme de ménage et elle reste à la maison pour s'occuper de ses frères et sœurs.
Vous venez souvent ici, au centre Al-Farah ?
Non, nous ne venons pas souvent. C'est juste quand j'apprends qu'on distribue de l'aide. Je viens et j'essaye d'avoir quelque chose. Et puis ici, ils m'aident aussi à faire les papiers pour que je puisse inscrire mes enfants à l'école. Surtout les deux filles, elle et sa sœur. Je veux qu'elles aient vraiment des droits, qu'elles puissent se débrouiller dans la vie. Si on peut nous aider pour le loyer et la nourriture, alors je les enverrai à l'école, parce que c'est moi la seule source de revenus. C'est vraiment important l'école. Je veux que mes filles puissent profiter de la vie comme les autres enfants. Je ne veux pas qu'elles souffrent comme moi j'ai souffert. La vie a été dure pour elles. Je veux qu'elles aient un avenir. Quelquefois, elles pleurent parce qu'elles veulent aller à l'école, mais elles ne peuvent pas.
Vous dites que vous ne voulez pas qu'elles souffrent comme vous. Vous avez été privée d'éducation ?
Non, je suis allée à l'école, mais je n'ai pas terminé ma scolarité. Je me suis mariée et puis la guerre a éclaté. Elles n'ont pas eu d'enfance. Je veux que mes enfants puissent étudier, pas comme moi. Je ne veux pas qu'elles se marient tôt.
Les mariages précoces, une vraie préoccupation pour les travailleurs sociaux du centre Al-Farah. Difficile d'avoir des statistiques fiables, mais il semble bien que de plus en plus de jeunes adolescentes soient concernées. Seule l'éducation permettra de s'en sortir, répète inlassablement Ibrahim Vourgoum Kavlak. Il est coordinateur général d'Assam, l'association qui gère ces centres de soutien à l'enfant et à la famille.
There are 1 million school-age children. Only half of them can access to school.
Il y a 1 million d'enfants réfugiés qui ont l'âge d'aller à l'école, mais seulement la moitié d'entre eux y a accès. Il n'y a malheureusement pas assez d'écoles, pas assez d'enseignants. C'est vrai que maintenant, presque tous les acteurs, les organisations internationales, s'intéressent enfin à l'éducation. Il y a des projets comme celui entre la Banque mondiale et l'UNICEF pour construire de nouvelles écoles pour les Syriens. Le ministère de l'Éducation turque a également créé un département spécial pour traiter les problèmes des réfugiés syriens en matière d'éducation. Mais le temps presse. On peut dire que l'éducation est une urgence. C'est souvent plus important que de répondre à des besoins de base. Nous pourrions avoir une génération perdue. De plus, s'ils ne peuvent aller à l'école, il peut y avoir d'autres problèmes qui surgissent, comme les mariages précoces, le travail forcé des enfants ou les violences.
Les besoins sont donc gigantesques en matière d'éducation, mais aussi de santé. 3 millions de personnes déplacées, dont les économies ont fondu au bout de 5 ans et qui vivent souvent dans une grande précarité. Le système de santé turc est extrêmement sollicité. Pour soulager les hôpitaux turcs, mais aussi pour permettre aux Syriens d'être soignés par des praticiens syriens qui parlent leur langue et sont issus de la même culture, ECHO, l'Office humanitaire de l'Union européenne, finance un programme de l'OMS qui va intégrer les médecins syriens dans le système de santé turc. Et pour cela, il faut d'abord les identifier parmi les réfugiés. C'est le gouvernement turc qui s'en charge. Le docteur Mustafa Bahadir Sucaklı coordonne le programme.
Il y a une commission spéciale au ministère turc de la Santé qui décide si les médecins syriens peuvent s'inscrire pour ce programme afin d'exercer en Turquie. Beaucoup de médecins et d'infirmières ont quitté leur maison dans l'urgence. Ils ont fui la guerre et ils n'ont pas pu prendre leur diplôme. Certains n'ont aucun document prouvant qu'ils sont docteurs ou infirmières. Donc, c'est une commission spéciale du ministère de la Santé qui reçoit les candidats un par un et vérifie s'ils peuvent travailler ou non. Le gouvernement turc a prévu qu'ils seraient autorisés à exercer dans des unités spéciales et uniquement pour les Syriens. Donc, c'est assez particulier. À la fois comme mode de recrutement, comme type de permis de travail et comme condition de travail. Il y a des besoins en matière de santé et il y a des médecins et des infirmières, nous le savons, dans cette population. Donc, il doit y avoir moyen pour le gouvernement turc de les repérer, de les choisir et de les intégrer dans le système. Je me souviens d'un pédiatre syrien que j'ai rencontré dans un de nos centres de formation à Istanbul. J'ai vu de la lumière dans ses yeux parce qu'il pouvait enfin recommencer à pratiquer auprès d'enfants après 4 ans. Je suis aussi médecin. Je sais à quel point c'est injuste pour un médecin d'arrêter de pratiquer. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'aide. Vous avez toutes les compétences pour les aider et vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez rien faire. Donc j'espère vraiment que ce programme va justement permettre de changer cela pour les Syriens.
6 semaines durant lesquelles les médecins syriens seront sensibilisés au fonctionnement du système de santé turc, aux protocoles en vigueur, aux médicaments disponibles avant de partir sur le terrain. Le docteur Imad Ahmet vient de suivre ce programme. Il était spécialiste de médecine interne à Kamishli, dans le nord de la Syrie.
C'est un vrai progrès pour les patients syriens de pouvoir avoir un médecin syrien et de communiquer avec lui, car ils ont beaucoup de mal à comprendre et à se faire comprendre. La barrière de la langue est un vrai obstacle quand vous êtes syrien et que vous devez expliquer vos symptômes, décrire vos souffrances au médecin turc. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais à Batman dans la clinique d'une ONG. Une patiente syrienne s'est présentée, elle avait très mal à la jambe, elle avait été à l'hôpital turc, mais elle n'avait pas réussi à bien expliquer ce qu'elle avait vraiment. Et ils ont diagnostiqué une douleur articulaire. Quand je l'ai examinée, j'ai vu que l'état de sa jambe nécessitait une amputation d'urgence, et je l'ai envoyée à l'hôpital, mais il était trop tard. Elle a eu une attaque et elle est morte 3 jours plus tard. Donc la langue, c'est vraiment crucial. Il faut pouvoir dépasser la barrière linguistique dans les hôpitaux. Et j'espère que l'OMS et le ministère turc de la Santé vont vite nous envoyer pour travailler dans les hôpitaux.
Mais il n'y aura pas assez de médecins syriens pour l'ensemble des réfugiés. Alors, parallèlement, l'OMS forme des interprètes spécialisés qui iront dans les hôpitaux turcs. Avoir le mot juste, précis, c'est en effet crucial quand on traduit en milieu médical. Ce matin-là, au programme, le vocabulaire du système immunitaire. À quelques encablures, des médecins syriens sont déjà à pied d'œuvre dans un centre de santé de l'ONG américaine IMC, International Medical Corps, financé par l'Union européenne. Nous sommes à Urfa, dans le sud de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. Cette clinique de premiers soins a ouvert en août 2014.
Ici, nous recevons les patients pour des soins de santé primaires.
Le docteur Assad Ali est chirurgien. Il est arrivé en Turquie il y a 4 ans depuis des Ressorts.
Nous avons 5 cliniques au total. Nous avons 2 médecins généralistes, 2 pédiatres, 1 gynécologue. Nous avons aussi un laboratoire et un pharmacien. Tous les soins sont gratuits. C'est entièrement financé par le programme humanitaire européen.
Combien recevez-vous de patients en moyenne ?
Nous recevons environ 200 à 250 patients syriens chaque jour. Tout dépend de la situation en Syrie. Quand c'est plus compliqué, nous avons davantage de patients. Il y a 2-3 mois, nous avons eu beaucoup de gens d'Alep. Avant, nous avions une vague de patients venus de Kobané. Et là, ce sont à chaque fois des nombres très importants. Nous voyons ici essentiellement des femmes et des enfants, très peu d'hommes. La grande majorité des consultations sont pour le pédiatre et le gynécologue, et un peu pour le médecin généraliste. Toute l'équipe est syrienne, et nous avons un superviseur, un docteur turc. Il fait le lien avec le gouvernement turc et aussi avec les hôpitaux publics turcs, lorsque des patients nécessitent d'être hospitalisés. Au début, c'était très dur pour obtenir les autorisations du gouvernement turc. Mais grâce à notre travail et à notre référent médecin turc, nous avons réussi. Nous avons de bonnes relations avec le gouvernement turc. Ils nous font confiance et nous leur faisons confiance. Et nous respectons toutes les procédures. Si Dieu le veut, nous espérons que tous les médecins syriens pourront trouver du travail.
Dans cette clinique, on trouve parfois de surprenants profils comme Mustafa Alouche. Il coordonne le programme de soins en santé mentale.
Je travaillais dans l'industrie pétrolière en Syrie avant. J'étais ingénieur. Mais il n'y a plus d'industrie pétrolière en Syrie. Et j'avais envie de me rendre utile pour aider les Syriens. Et j'ai pu entrer dans ce programme.
Vous avez un psychiatre ici ?
Pas un psychiatre par site, en fait. Les psychiatres syriens sont très peu nombreux ici. Nous essayons de faire en sorte que notre psychiatre se partage entre les différents sites. Dans la région d'Urfa, nous avons 3 antennes dans les zones rurales. Et le psychiatre a un jour de consultation dans chaque site. Pour résoudre ce problème de manque de spécialistes, notre psychiatre a formé des médecins généralistes au programme de soins approuvé par l'OMS. On essaie de traiter un maximum de patients ici, parce que nos psys parlent arabe. Et vous le savez, la langue, c'est très important dans les soins psychiatriques. Donc nous tentons de traiter les patients ici, avec l'aide de nos médecins. Pour les cas les plus lourds, ceux qui ont besoin d'être hospitalisés, nous sommes en lien avec les hôpitaux turcs. Et ils sont très coopératifs. Ils acceptent de prendre nos patients et ils nous les amènent chaque semaine pour leurs séances de soins avant de les ramener à l'hôpital.
Mais sa grande fierté, c'est lorsque les médecins syriens réussissent à soigner avec leurs propres ressources.
Je me souviens d'un enfant qui venait de Raqqa. Il avait 7-8 ans. Il souffrait de syndrome post-traumatique et d'attaques de panique. Et il avait développé une incontinence urinaire en raison des raids aériens qu'il avait connus. Il était toujours effrayé par le bruit des avions, même ici en Turquie, où il n'y a plus de danger. Mais le bruit des avions lui faisait revivre ces images traumatiques. Et nous l'avons soigné, et nous avons bien réussi. Je me souviens qu'à la fin, il a dit « C'est mieux maintenant. Les avions ne me font plus mal. Et maintenant, il va mieux et se débrouille bien à l'école. »
Nous sommes dans le centre d'accueil qui est géré par le Croissant-Rouge turc dans la ville d'Urfa. Urfa, c'est l'une des provinces qui a reçu le plus de réfugiés syriens. Actuellement, plus de 300 000 Syriens vivent ici.
Dans ce centre, c'est l'un des programmes dont l'Office humanitaire de l'Union européenne est le plus fier qui prend forme. C'est aussi le plus important projet humanitaire de toute l'histoire de la Commission européenne, avec une première enveloppe de 348 millions d'euros. Il s'agit d'un plan d'aide sociale d'urgence, dont l'acronyme est ISSN, pour Emergency Social Safety Net. Un transfert de cash pour les familles les plus vulnérables. Il s'agit de fournir à 1 million de réfugiés dans l'ensemble du pays une carte qui sera créditée chaque mois de 100 livres turcs par personne. C'est l'équivalent de 28 euros. Mais pour obtenir ce précieux sésame, il faut d'abord passer par un processus quelque peu bureaucratique.
Alors, ici, vous voyez des réfugiés qui sont déjà venus s'enregistrer pour le programme de carte ISSN.
Azza Gazzawi, du programme alimentaire mondial, partenaire de l'opération.
Ils ont emporté les formulaires d'inscription et aujourd'hui, ils reviennent avec tous les documents nécessaires pour s'inscrire. Ça veut dire qu'ils ont dû aller confirmer leur adresse. Normalement, ils vont au service turc de la population. Ensuite, ils remplissent le formulaire qui détaille la composition de la famille. Ils doivent aussi avoir leur carte d'enregistrement donnée par le ministère turc des migrations. Il faut que chaque membre de la famille ait cette carte et toutes les cartes doivent être apportées. Quand ils ont tous ces documents, ils prennent rendez-vous et reviennent ici pour s'inscrire formellement. Une fois qu'ils sont enregistrés, le gouvernement va passer toutes les informations au crible. C'est une vérification automatique. S'ils remplissent les critères, alors ils recevront un SMS sur leur mobile pour leur dire qu'ils ont le droit à la carte et peuvent aller la chercher à la banque. Chaque mois, les données sont automatiquement contrôlées. Donc, si la situation change, si par exemple il y a une naissance ou qu'un membre de la famille a un travail déclaré, officiel, eh bien cela apparaîtra immédiatement sur les bases de données chaque mois.
Les Syriens qui se pressent ici sont presque au bout de leur peine. Ils serrent dans leurs mains tous les documents. Pour certains, c'est une première. D'autres ont déjà expérimenté d'autres modèles de cartes. Distribuées par le gouvernement turc ou certaines ONG, elles permettaient d'acheter de la nourriture dans certains magasins seulement, où il y avait peu de choix et où les prix étaient souvent plus élevés qu'ailleurs. C'est le cas de Mezgin Alo, une jeune femme de Kobané.
Je bénéficie déjà de l'ancienne carte, mais je ne peux l'utiliser que dans deux marchés près de chez moi. J'achète de la viande, du poulet, des légumes, et c'est important d'avoir la nourriture assurée. Mon mari travaille, mais vraiment de façon occasionnelle. Il charge et décharge des briques sur des chantiers, et ça n'est pas assez. Même dans le meilleur des cas, s'il pouvait travailler régulièrement, il ne pourrait gagner que 30 livres turcs. Au moins, on peut manger grâce à la carte.
Manger ou utiliser l'argent liquide pour payer une partie de son loyer ou le transport pour l'école, c'est important d'avoir le choix, souligne Azza Gazzawi, responsable local du PAM.
Vous pouvez soit retirer l'argent dans un distributeur, soit payer directement dans les magasins avec la carte. Elle fonctionne exactement comme n'importe quelle autre carte de crédit. C'est très important pour conserver sa dignité. Vous avez votre argent et vous le gérez, vous décidez comment le dépenser. Et les gens nous disent, c'est une sécurité quand vous avez votre propre argent. Il faut bien comprendre la culture des Syriens, des Afghans, des Irakiens, des autres nationalités que nous avons ici. Surtout pour les hommes ou pour les femmes, si elles sont chefs de famille, c'est important. C'est leur dignité. Ils disent « Je suis ici pour dépenser et soutenir ma famille ». C'est vraiment bien. Nous les voyons qui récupèrent leur argent, qui font la queue dans les magasins comme les autres, comme n'importe quel Turc, avec leur chariot de nourriture, de la nourriture qu'ils ont choisie. Ils prennent ce qu'ils aiment, ils payent et ils partent. C'est vraiment un bon système et ils l'apprécient beaucoup.
Oh,
Camila a reçu cette carte avec sa sœur et leurs enfants. Elle vient tout juste de fuir Raqqa. Raqqa est l'enfer de Daesh.
Il y avait une pression de plus en plus importante. On ne pouvait sortir sans être entièrement couverte. Je ne pouvais pas sortir sans un homme pour m'accompagner. Les écoles étaient fermées. À la mosquée, ils organisaient des classes de Coran et organisaient des discussions, mais je n'ai jamais envoyé mes enfants. C'était du lavage de cerveau. D'abord, ça a commencé avec les écoles, puis ils ont coupé les communications. Nous étions obligés d'aller dans des boutiques spéciales pour passer des appels. Il y avait des observateurs de sécurité partout. On nous surveillait tout le temps. Il fallait dire qui on était, qui on appelait et pourquoi. Et comme toutes les femmes étaient couvertes, on ne savait pas si se cachaient des observatrices de Daesh parmi elles. Chaque jour, la vie devenait de plus en plus difficile. La dernière chose qu'ils aient faite, c'est d'enlever les télévisions des maisons. Ils sont venus dans les maisons chercher les télévisions, puis les ont brûlées. Si c'était l'heure de la prière et qu'un homme était vu dehors, ils l'arrêtaient, le torturaient. Il était interdit de fumer, pas de cigarette.
Et pouviez-vous trouver de la nourriture ?
Oui, mais de plus en plus difficilement. Les prix étaient très élevés à cause du siège. Et il n'y avait plus de travail. Ils se focalisaient sur les enfants car il était plus facile de leur faire un lavage de cerveau. Quand il y a une exécution, il y a un appel à la mosquée et tout le monde doit se rassembler et venir assister. Et ils demandent surtout que les enfants viennent pour voir. Les filles pouvaient rester à la maison, mais les enfants doivent aller dans la rue pour y assister.
Une fuite éperdue durant plusieurs nuits. Camila raconte les barrages tenus par différents groupes, ces combats qui éclatent, les bombes, la terreur, la mafia des passeurs qui se revendent les réfugiés, cette marche de nuit dans la montagne. Et au bout du voyage, la Turquie et Urfa.
Ici a commencé un autre type de souffrance. Il a fallu trouver de quoi payer le loyer, l'électricité et l'eau. Nous n'avons pu trouver de travail à Urfa. Ma sœur et moi sommes enseignantes. Nous avons postulé, nous avons passé les examens, mais nous n'avons toujours pas de travail. Et puis est arrivé le premier loyer à payer. Nous n'avions pas d'argent, mais il nous restait encore un petit peu d'or et on l'a vendu. Vous savez, j'ai été fonctionnaire pendant 23 ans en Syrie. Alors quand je suis partie de Raqqa, j'ai emporté toutes mes économies. J'avais pris mon or, j'avais vendu tout ce que je possédais pour payer le voyage. J'ai tout vendu sauf mon alliance, même les boucles d'oreilles de mes enfants. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avions pas de valise, juste les vêtements que nous portions sur le dos et nos papiers. J'avais pris mon certificat de naissance et les certificats de naissance de mes enfants.
Elle échoue finalement dans un petit immeuble de béton nu, dans les faubourgs de la ville, au bout d'une rue de terre défoncée. Un petit appartement glacial en cet après-midi d'hiver.
Il y a 4 pièces. Une pièce est fermée à clé, c'est pour le propriétaire. Il y a une pièce vide, on n'avait rien à mettre dedans. Une pièce pour ma sœur et ses enfants, et une pour moi et mes enfants.
Et à combien se monte le loyer ?
500 livres turcs. Il faut ajouter l'eau et l'électricité. L'hiver, c'est 250 livres turcs chaque mois pour l'électricité et 16 livres pour l'eau. Parfois, les voisins nous aident. Parfois, on économise sur la nourriture pour payer les factures. Parfois, quand on arrive à court d'argent, j'enferme mes enfants à clé chez moi et je sors voir si je peux trouver du travail. Si je pouvais trouver du travail comme enseignante, tout s'arrangerait. Mais il semble qu'il n'y ait pas de recrutement. Il est arrivé que les enfants ne mangent pas pendant 2 jours. Au début, quand on est arrivé, on est même allé autour d'ici, dans les champs, voir si on trouvait du pain pour nourrir les enfants.
Maintenant, vous avez reçu la carte et est-ce que vous avez déjà eu un premier paiement ?
Avec la carte, nous recevons 400 livres chacune, ma sœur et moi. Ça fait 800 livres turcs en tout. Donc ma carte, plus 100 livres de la carte de ma sœur, ça sert à payer le loyer. Et le reste, c'est pour la nourriture.
C'est donc un soulagement, mais pas suffisant pour vivre décemment.
Au moins, ça enlève le poids du loyer et des factures à payer.
Et maintenant, que comptez-vous faire? Rester ici, à Urfa?
Juste avant de recevoir l'accord pour la carte, j'avais décidé de retourner en Syrie, à Raqqa, parce que la vie ici était vraiment très dure. Au moins là-bas, j'avais une maison et je n'avais pas de loyer à payer. Et puis, quand nous avons eu les cartes, on s'est dit avec ma sœur qu'on pourrait payer le loyer et les factures. Alors on va rester en attendant que Dieu dessine un autre chemin. Je me souviens le jour où l'on a reçu le texto disant qu'on avait droit à la carte. Toute mon apparence a changé. Même mes enfants se sont mis à chanter.
Cette carte lui permet non seulement de bénéficier de cash, mais aussi d'entrer dans le système social turc afin d'obtenir à terme d'autres aides comme n'importe quel citoyen. Au-delà de l'urgence, c'est en effet désormais à plus long terme que l'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement turc.
Je m'appelle Jane Lewis, je suis la chef de bureau de ECHO, le bureau d'aide humanitaire en Turquie, pour la Commission européenne.
Quel est le plus grand défi aujourd'hui pour vous en Turquie?
Aujourd'hui, je pense qu'on a l'opportunité de mettre en place un système d'aide humanitaire qui n'a jamais été fait au monde. Et c'est un projet qui est très grand, avec énormément de pièces dans un énorme puzzle. Et le grand défi, c'est de faire en sorte que ça crée un tableau qui fait du sens. Il y a le cash avec l'ISSN, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a tout un mécanisme de protection de mettre en place. Ça fait déjà un an qu'on travaille dessus. Les grands morceaux sont en place et ça fonctionne. Mais il y a encore du travail à faire en sorte que le système soit entièrement intégré et durable dans le temps avec les systèmes gouvernementaux.
En quoi est-ce que cette approche humanitaire est nouvelle?
Elle est nouvelle dans la mesure où c'est presque une politique publique humanitaire. Ce n'est pas une approche projet ni une approche programme. C'est vraiment de voir quels sont les systèmes qui existent déjà dans le gouvernement turc, dans les services sociaux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les services du gouvernement justement pour faire accéder à ces services pour les réfugiés. Donc c'est vraiment une approche entre l'humanitaire et le développement qui prend l'expertise humanitaire et l'étendue et les connaissances des ministères de tutelle. C'est un vrai partenariat pour atteindre les plus vulnérables sur le territoire entier, pas seulement dans les zones de concentration de réfugiés, mais pour tous les réfugiés qui sont partout sur les territoires turcs. On a vraiment un gouvernement qui est prêt à travailler main dans la main avec les humanitaires et l'opportunité d'avoir des financements qui sont assez importants pour mettre le système en place.
C'est un peu un laboratoire, la Turquie, de ce que vous souhaiteriez faire à l'avenir ?
C'est exactement ça. On a des ambitions de créer des modèles qui pourraient être utilisés dans d'autres pays dans le monde et aussi de trouver des solutions vraiment pérennes pour les réfugiés. À la fin, on veut faire en sorte que les réfugiés puissent couvrir leurs besoins minimaux, envoyer leurs enfants à l'école, aller au centre de santé, se faire soigner pour les besoins médicaux. Donc l'intérêt, c'est vraiment de stabiliser les réfugiés pour qu'ils puissent devenir aussi des membres productifs de la société turque.
C'est un nouveau modèle humanitaire pour l'Europe. Plus de 5 ans après le début du conflit en Syrie, tous font le constat que les réfugiés sont là pour longtemps encore. Nous retrouvons Ibrahim Kavlak de l'association Assam.
Peut-être que la majorité des Syriens voudront rentrer chez eux, mais même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, leur retour, leur réinstallation en Syrie prendra peut-être 20 ans. Ils n'ont plus de maison, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus rien. Et si vous vivez dans un pays pendant 5, 6 ans, vous allez vous adapter à ce pays. Au moins 200 000 enfants syriens ne connaissent rien de la Syrie. Ils sont nés ici, en Turquie. Là, nous sommes à Istanbul. C'est une très belle ville. Eh bien, quand vous devez choisir entre une ville que vous n'avez jamais vue et une ville au bord de la mer, où en plus on vient vous aider, c'est difficile de décider de rentrer en Syrie. Bien sûr, beaucoup vont rentrer. Beaucoup aussi vont rester en Turquie.
Si l'on imagine que de nombreux Syriens vont finalement rester en Turquie, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui pèse sur la société turque et sur la cohésion sociale ?
La question des réfugiés, des migrations en Turquie, c'est un phénomène relativement nouveau. Dans les pays européens, presque tous les partis politiques ont une partie de leur programme qui est consacrée. C'est une question de politique intérieure aussi. Mais jusqu'à présent, chez nous, en Turquie, ce n'était pas une question politique. Que ce soit les partis nationalistes, la droite ou la gauche, ils ne s'emparaient pas de l'immigration. Il n'y avait pas de discours global, discriminatoire ou xénophobe. Bien sûr, il y avait des critiques, mais pas de discours systématique contre les Syriens. Mais plus cela dure, plus la compétition grandit entre les Syriens et les Turcs pour le travail, pour l'accès aux droits de base, la santé, le logement. Les réfugiés sont plus visibles qu'avant. On insiste sur notre hospitalité, on dit que les Syriens sont nos invités. Mais invité, cela n'a aucun sens juridique ou légal. Et si un invité reste trop longtemps, cela devient un problème. C'est pourquoi nous devons trouver des solutions. On a parlé par exemple de leur donner la nationalité turque, mais il faut aussi s'occuper de l'image, de la perception qu'ont les Turcs des réfugiés. Il y a des outils pour cela. L'enjeu est important. Vous pouvez faire des Syriens des ennemis, ou bien créer un espace où tous nous pouvons vivre ensemble. Nous devons travailler sur cela.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Crise des réfugiés en Turquie, le nouveau modèle d'assistance européenne. C'était un reportage signé Marie-Pierre Véraud, réalisé par Annie Brault, et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Geneviève Jacques, qui est présidente de la CIMAD, et Bayram Balci, chercheur aux séries Sciences Po. Première question peut-être à vous, monsieur. Bien sûr, on va revenir sur cette coopération, sur ces programmes menés en collaboration entre la Turquie et l'Union européenne. Mais première question historique, si j'ose dire, on va pas remonter très loin en arrière, juste au début de la guerre 2011-2012, de la guerre en Syrie, pour savoir comment le président Erdogan a d'abord lui-même récupérer, c'est pas le mot, mais accueillir ces réfugiés, et comment il a voulu vraiment gérer cette crise migratoire seul, au moins au début.
Je pense qu'au départ, quand il y a eu le déclenchement de la crise syrienne, en Turquie comme partout dans le monde, en Europe aussi, on pensait que la crise allait être provisoire, et du côté turc, on avait le sentiment en fait qu'il fallait dès le départ adopter une politique de porte ouverte en quelque sorte, en fait, pour qu'ils puissent venir. Et on pensait qu'au bout de quelques semaines, Bachar allait tomber, que les réfugiés allaient repartir. On n'avait pas imaginé que le conflit syrien allait s'éterniser, allait devenir un conflit sectaire, confessionnel, et aussi avec une dimension régionale, internationale. Or, au fur et à mesure, malheureusement, le conflit a duré, il s'est éternisé. Et du coup, l'hospitalité et le sentiment qu'on va pouvoir gérer ce problème nous seuls, en Turquie, il y a une prise de conscience que c'était beaucoup plus complexe que ça.
Mais c'est relativement tardif, parce que finalement, jusqu'à quand le président Erdogan a-t-il eu le sentiment qu'il pouvait justement se passer de l'aide du HCR, par exemple, gérer seul les camps de réfugiés ?
En fait, c'est vrai que les Turcs, ils ont mis un certain temps pour réaliser en fait que c'était un problème durable, et que je pense que le point de rupture, c'était autant 2015. 2015, oui. Pourquoi ? Parce que c'est l'intervention militaire russe, avec des avions et des soldats russes. Et là, on a le sentiment, en fait, c'est qu'en fait, que ça allait changer le cours du conflit et que Bachar allait rester pour longtemps. Et là, du coup, on a le sentiment, en fait, que ça allait durer longtemps. Et c'est là qu'en Turquie, entre-temps, la situation économique, politique s'est détériorée. Le régime est devenu beaucoup plus autoritaire parce qu'il est devenu aussi très contesté de part des autres. Donc là, le sentiment qu'on peut gérer la question des réfugiés nous-mêmes a cédé le pas à une autre politique, à une autre perception pour dire on n'est pas les seuls, nous n'avons pas déclenché ce conflit, on se retrouve seul face à ce conflit, et il faut que l'Europe, la communauté internationale, fasse son travail, son devoir, et nous aide aussi.
Seul face à presque 3 millions de réfugiés, il faut rappeler ce chiffre qui est unique quand même unique, dans le monde, en tout
c'est
cas.
C'est le pays qui reçoit le plus de réfugiés au monde, effectivement, depuis quelques années.
Madame Geneviève Jacques, c'est d'autant plus complexe qu'en Turquie, on l'a un peu entendu dans le reportage de Marie-Pierre, mais on ne donne pas à ces personnes qui sont arrivées de Syrie le statut justement de réfugié. C'est un statut qui n'existe même pas, si on peut dire, en Turquie.
On est dans un domaine où le droit, que ce soit le droit international de l'asile, par exemple, ou bien les références habituelles, que ce soit en Turquie ou ailleurs, on flotte hors droit, là. Effectivement, à cause de la proximité, les gens sont arrivés à pied, c'est-à-dire en camion, etc. Et ont été d'abord accueillis par la population turque, avant d'être accueillis par les autorités turques, mais par la population comme des voisins. C'est le sens de l'hospitalité de cette région. Et puis ensuite, effectivement, vous mentionnez la date de 2015, qui est à la fois la prise de conscience que le conflit est devenu s'internationaliser et n'allait pas se terminer.
Et que Bachar allait rester probablement aussi grâce aux Russes. Hein.
Et puis, c'est le moment où l'Union européenne commence à s'affoler de voir que tous ceux qui ne sont pas restés en Turquie, qui n'ont pas été accueillis dans tous ces pays qui débordent, dont la Turquie, parce que la Jordanie déborde aussi, etc.,
absolument,
sont arrivés en nombre en Europe, et c'est là où on a le fameux pacte qui se concocte et qui est signé
cette intervention de l'Union européenne,
voilà,
finalement, pour aider
quand même la Turquie pour arrêter.
Une question de Marie-Pierre Véraud.
Mais effectivement, les Syriens, comme les autres étrangers en Turquie, ne peuvent pas bénéficier du statut de demandeur d'asile, du statut de réfugié. Ils sont, Maryam Balcher, on les appelle les invités.
En fait, oui, c'est-à-dire que la Turquie a signé la Convention sur les réfugiés de 1951, mais d'une manière un peu limitative et partielle.
Convention de Genève.
C'est-à-dire qu'en fait, et dès le départ, en Turquie, ils ont réalisé en fait qu'ils sont entourés de pays où il y a des potentialités de migration et qu'ils ne voulaient pas que la Turquie se retrouve une espèce de salle d'attente, en fait, pour tous ceux qui veulent obtenir le statut de réfugié. Donc, ils ont signé d'une manière un peu limitative, en quelque sorte. Et de ce fait, ils leur donnent un statut.
Puisqu'ils accordent le statut de réfugié qu'aux Européens, en fait.
Mais on était aussi dans une logique de guerre froide à l'époque, en fait.
C'était l'ancienne Convention de Genève, c'était ça aussi.
C'est qu'en fait, les choses dans leur contexte de l'époque. Et en fait, c'est un truc qui a été reproché beaucoup à la Turquie. Mais en même temps, il faut reconnaître que depuis quelques années, il y avait déjà un certain nombre de réformes qui avaient été initiées en Turquie pour qu'il y ait une certaine conformité entre la pratique turque et européenne dans le contexte, dans le cas du rapprochement et de la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il y avait déjà des travaux qui avaient été faits. La crise syrienne a déclenché, a accéléré cela. Et il était question qu'il modifie cela. Mais à l'heure actuelle, en Turquie, il y a un tel niveau de conflit, de tension et aussi de rupture avec l'Europe, malheureusement, qui fait qu'en fait, ce n'est pas facile à mettre en place.
Oui, c'est compliqué.
Et puis, je crois qu'il faut dire, on a parlé des réfugiés syriens, qui sont l'écrasante majorité, mais il y a un traitement très, très différent avec les Afghans, Irakiens et autres Iraniens.
Africains.
Et même Africains, oui, qui essayent de passer par la Turquie, et qui, eux,
ont un traitement très discriminatoire.
Ça, c'est souvent aussi pour rejoindre l'Union européenne, mais c'est presque une autre émission. On va quand même peut-être se concentrer, rester sur les Syriens, parce que je voulais vous demander, Bayram Balci, finalement, on parle de la générosité de la Turquie au moment de cette crise. Aujourd'hui encore, elle se montre généreuse en gardant justement ces Syriens sur son sol. Mais est-ce que vous diriez quand même qu'il y a, et c'est d'ailleurs le titre de votre titre, une instrumentalisation de la part du président Erdogan de cette crise, finalement, aussi bien, on le verra peut-être dans un deuxième temps, sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, vis-à-vis notamment de l'Union européenne.
Je confirme qu'effectivement, il y a une espèce d'instrumentalisation de la question des réfugiés syriens en Turquie, au niveau de politique intérieure, et aussi au niveau de politique avec l'Union européenne, mais les responsabilités sont partagées. Ça, c'est la première. Mais avant de préciser, j'aimerais quand même dire, en fait, c'est que ça aussi, il faut se mettre aussi à la place des Turcs. La question des réfugiés, le conflit syrien, a eu beaucoup d'impact négatif sur la Turquie, au niveau économique, au niveau social. Et l'arrivée des réfugiés, d'abord, ça a été coûteux. Là, c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, que l'Europe se mobilise, donne beaucoup d'argent, elle est généreuse. Mais avant ça, pendant 4-5 ans, c'était que les Turcs qui payaient tout ça. Et je pense
qu'il
faut
le président Erdogan dit que la somme avoisine les 10 milliards d'euros.
Il exagère peut-être, mais en tout cas...
Ce qui a été versé, c'est 750 millions.
Et c'est un fait que depuis 5 ans, il y a des réfugiés, ce sont les Turcs qui payent. C'est la première chose.
Donc 750 millions versés contre 10 milliards dépensés, a priori, par la Turquie.
Je sais pas. La deuxième, c'est qu'en fait, même si effectivement, on peut leur reprocher d'avoir instrumentalisé la question des réfugiés, mais avant ça, ils ont aussi beaucoup payé en termes de tensions, de conflits, des impacts négatifs. Et au niveau instrumentalisation, c'est vrai qu'effectivement, en Turquie, dès le départ, Erdogan, parce qu'il pensait que le conflit a duré peu de temps, donc il a voulu montrer que la Turquie est un pays fort, accueillant, prospère, généreux et protecteur des musulmans opprimés dans le monde.
Donc c'était sincère cet accueil humanitaire.
C'était sincère, mais je pense qu'il pouvait se permettre ce discours, cette attitude, parce qu'il pensait que ça allait durer peu de temps.
Et puis c'est devenu alors une monnaie d'échange à l'extérieur,
après,
c'est ça ?
C'est après, une fois qu'on a eu le sentiment en fait que les Syriens allaient rester en Europe et qu'ensuite, Erdogan s'est retrouvé en difficulté parce que il a été isolé, la Turquie est complètement isolée sur le conflit syrien. Elle a quand même 900 km de frontière, elle reçoit 3 millions de réfugiés, elle n'a pas vraiment le droit de dire son mot dans le conflit syrien. Elle a été complètement marginalisée. Et si ensuite, par la suite, l'Union européenne fait un certain nombre de reproches à la Turquie, et qu'on peut comprendre sur la dérive autoritaire, la répression des médias, etc. Donc du coup, il a été tellement marginalisé, mis en difficulté, isolé. Donc du coup, il a utilisé la question des réfugiés comme facteur de négocier avec l'Europe.
Oui. Utiliser. Mais attendez, excusez-moi. Utiliser, ça veut dire finalement entre guillemets, si je vais un peu loin, mais menacer l'Europe de laisser partir les réfugiés. C'est ça que vous voulez dire vers
effectivement.
Vers chez nous.
Effectivement. C'est-à-dire en fait qu'à un moment, c'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de critique de la part des Européens sur sa dérive autoritaire, et quand même, en même temps, les Européens, ils ont tellement affiché une politique de crainte de par rapport à l'arrivée de ces réfugiés. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est pas vous que j'expliquerai ce qui s'est passé à Calais, etc. Donc dans ces conditions-là. Eh bien, c'est un homme qui fait de la politique, qui est opportuniste, il a utilisé la carte des réfugiés.
Et il signe ce fameux pacte.
Deal, et il a été signé à deux. Oui. Donc la responsabilité est des deux côtés.
Question à Geneviève Jacques quand même, parce que la CIMAD a beaucoup critiqué ce pacte, même du point de vue européen.
Bien sûr, on l'a critiqué il y a un an, et le bilan un an après justifie d'autant plus cette critique, parce que l'aide de l'Union européenne... à la Turquie, qui avait l'année dernière des millions, 2,5 millions, ça n'a pas été par générosité et partage humanitaire des misères du monde. Ça a été à condition que vous bloquiez la frontière. C'était à condition. Et maintenant, on est dans cette tension un peu de dupe. L'Europe dit « à condition que vous bloquiez » et Erdogan dit « si vous ne me débloquez pas assez, j'ouvre la frontière ». Et ceux qui sont les otages de cette situation, ce sont bien évidemment les réfugiés. Alors ceux qui ne peuvent plus partir et qui sont bloqués en Turquie, même si la Turquie, les conditions d'après ce qu'on a entendu, sont... sont difficiles mais sont pas catastrophiques. Mais ceux qui sont déjà passés et qui se trouvent bloqués entre la Grèce, les Balkans fermés, etc., là, les conséquences sont dramatiques. Et ce qui est aussi dramatique, c'est que cet exemple-là, on vous donne de l'argent à condition que non seulement vous fermiez les frontières, mais qu'en plus vous gardiez les gens chez vous, c'est considéré comme un exemple pilote. Et qu'il risque, pour nous, on considère que c'est un vrai risque, en pensant à la dignité et aux droits des exilés, d'être dupliqué dans des pays comme la Libye, si vous voyez ce que ça peut être.
Oui, on imagine que le droit des réfugiés ne doit pas être facilement respecté. Mais Bayram Balci, est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire que l'Union européenne, finalement, en sous-traitant cette question aux Turcs, qui sont quand même pas très loin de la Syrie, qui sont des pays effectivement assez accueillants, est-ce que ça ne peut pas être vu comme quelque chose finalement d'intelligent, parce que les gens sont plus proches de leur pays d'origine, ils risquent peut-être d'y repartir, ils peuvent trouver peut-être des cultures plus communes, enfin, est-ce que c'est complètement absurde ?
C'est une bonne solution, effectivement, mais il faut voir aussi le prix qu'on a payé. Le prix, c'est qu'en fait, on a accepté la politique autoritaire d'Erdogan en échange qui garde les réfugiés. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau éthique, c'est une bonne chose ? Non. Et est-ce que c'est efficace ? J'ai pas l'impression, parce que du coup, ce qui se passe en fait, c'est qu'en fait, du coup, ils trouvent d'autres moyens, d'autres chemins, et ils prennent beaucoup plus de risques, ils payent beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de gens qui disparaissent malheureusement. Et par ailleurs, je pense qu'on reproche beaucoup à Erdogan d'utiliser, d'instrumentaliser la question des réfugiés. C'est vrai, Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, depuis quelques mois, on a l'impression en fait, que les Turcs ont tenu leurs promesses, les Européens pas trop.
Pourquoi mais... dites-vous ça? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, les Européens? Les visas,
que...
notamment, c'est à ça que vous pensez?
Les Européens avaient dit qu'ils donneraient 2 fois 3 milliards. Ouais. Pour l'instant, il n'y a qu'une toute petite partie qui a été donnée. Ils avaient dit qu'ils allaient lever le visa pour les citoyens européens, ça n'a pas été fait.
C'est-à-dire donner des visas pour
c'est-à-dire
entrer
que,
en...
C'est-à-dire que les Européens peuvent aller en Turquie sans aucun visa. Alors que les Européens s'étaient engagés à ce que les Turcs puissent venir voyager en Europe, faire du tourisme sans visa, ça n'a pas été fait. Ils avaient dit qu'ils allaient ouvrir des négociations d'adhésion, ça a été en partie ouvert, mais pas vraiment. Donc en fait, si on regarde bien, les Turcs ont tenu leurs promesses, mais pas les Européens. Et malgré ça, la question, on peut revenir là-dessus si vous voulez, c'est qu'en fait, je ne suis même pas sûr que malgré ça, Erdogan ait la volonté et la capacité de mettre à exécution sa menace et d'ouvrir les frontières. Je pense qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il sait que, et surtout les Syriens, les réfugiés là-bas, ils communiquent entre eux. Mmh. Ils savent très bien que si demain Erdogan ouvre les frontières, il n'y aura pas beaucoup de comités d'accueil qui vont s'organiser pour accueillir les réfugiés. Donc en fait, sa menace, quelque part, elle ne marchera pas.
Alors un mot peut-être quand même justement de la façon dont en interne, vous le disiez tout à l'heure, il instrumentalise, ou en tout cas il y a un risque de problème de cohésion de la société turque. Marie-Pierre Véro, voulez-vous interroger à ce sujet? Dans les villes notamment frontalières.
On s'est rendu compte dans certaines villes frontalières où près de la moitié de la population, c'est le cas à Kilis je crois, est syrienne. On voit bien que dans les centres de santé, on l'entend dans le reportage, dans les hôpitaux, cet afflux de réfugiés dans une situation difficile peut créer des tensions. On parle des mariages précoces, il y a eu des rumeurs aussi qui ont circulé en Turquie, un petit peu reliant avec des relents xénophobes. Alors, est-ce que cette société turque, jusqu'à présent très bienveillante, hospitalière, sa cohésion est quand même mise à rude épreuve? Comment est-ce que vous sentez les choses?
Honnêtement, en l'espace de peu de temps, 3 millions de réfugiés qui arrivent en Turquie, qui aient des affaires, des tensions, etc., ça reste encore gérable.
Il faut peut-être rappeler, il y a 80 millions d'habitants en Turquie à peu près.
Il y a 80 millions d'habitants, mais c'est surtout qu'ils sont arrivés jusqu'à la frontière. Donc on a parlé de questions, effectivement, de tensions, de mariages, de quelques tensions entre Syriens et Turcs, d'enfants qui travaillent. Effectivement, il y a une espèce d'exploitation du travail des enfants, malheureusement.
Il y a une tension sur le marché du travail. Tension, vous parlez des problèmes économiques aussi. Il y a une compétition pour l'accès au travail entre Turquie et Syriens.
Il y a une compétition, mais là aussi du côté. C'est-à-dire qu'il faut nuancer les choses. C'est qu'effectivement, certains en Turquie se plaignent de l'arrivée de ces compétitions, de cette main-d'œuvre qui est compétitive.
Parce qu'ils sont très, très mal payés.
Ils sont mal payés parce qu'ils travaillent dans des conditions vraiment très difficiles. Moi, en même temps, ça fait plaisir au patronat turc. C'est comme partout, c'est comme en Europe. Donc, c'est aussi à double. Et ça, ensuite, on dit souvent, en fait, que les Syriens, c'est un fardeau, etc. C'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi un savoir-faire, un dynamisme, un entrepreneuriat des Syriens qui profite à l'économie en Turquie. Et ça aussi, je pense qu'il faut le souligner.
À Gaziantep, notamment, à la frontière où vous êtes allé, hein, où il y a quand même une industrie florissante.
Mais vous avez d'excellentes entreprises qui ont été démontées de la région de Alep. Alep était une ville assez industrielle. Malheureusement, maintenant, c'est plus le cas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été démontées. Et vous avez beaucoup de savoir-faire, de l'esprit d'entreprise des Syriens. Ce sont des beaux commerçants. Et il y avait aussi une population bien formée. Il y avait des médecins. Tout à l'heure, votre reportage le montrait. Il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient bien formés, et ça profite à la Turquie. Et il y aurait peut-être aussi une question à voir, c'est pourquoi Erdogan a recours à cette instrumentalisation, parce qu'elle l'a mis en difficulté, et l'opposition face à Erdogan, malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur de la mission, et là aussi, il y aurait beaucoup...
L'opposition n'a pas poussé à ce qu'on intègre
les
Syriens. Non,
c'est qu'en fait, dès le départ, Erdogan n'a pas inventé la crise syrienne. Avant la crise syrienne, son meilleur copain dans la région, c'était quand même Bachar, et ce n'était pas de sa faute. Et là, on sait, je pense que sa politique a été très fortement critiquée, et d'une manière pas toujours très sympathique de la part de l'opposition, qui a aussi dénoncé sa politique de faire venir des réfugiés syriens, parce que, et parfois dans des propos... pas tout à fait sympathique pour les réfugiés. Et là, je trouve quelque part le principal parti d'opposition qui est en principe social-démocrate, qui est le parti des libertés. Là, son comportement par rapport à un réfugié n'a pas été très digne. Mmh. Et au contraire, c'est Erdogan qui a été beaucoup plus respectueux du droit des réfugiés, en fait.
Geneviève Jacques, sur ces risques que font courir peut-être à une société ou à la cohésion d'une société l'arrivée de réfugiés?
Il faut voir les proportions et la rapidité avec lesquelles ils arrivent. Là, effectivement, 3 millions de personnes qui arrivent dans un pays de 80 millions en l'espace de 3 ans, c'est vrai que ça ne peut... forcément, il y a des questions. Juste souvenons-nous, l'Europe a monté sous cette machinerie pour ne pas recevoir ou ne pas bien recevoir 1 million de Syriens pour 500 millions d'Européens.
Et là, on parle de 3 millions pour 80 millions de Turcs.
Exactement. Ouais. Donc, je crois qu'il faut, se souvenir de ça. Et aussi, peut-être une autre question qui serait à réfléchir en ce qui concerne cette nouvelle approche humanitaire qui est mise en place en Turquie en vue de, d'une installation pour aider les gens à se prendre en main, à s'installer. Ça, c'est bien. L'intérêt serait de voir si ça se produit aussi dans d'autres pays, comme le Liban, où la proportion de réfugiés
exactement.
Est encore plus importante.
C'est 25% là-bas. Et en Jordanie, 10%. Donc c'est beaucoup
où
plus.
Les mêmes réfugiés syriens sont sous des tentes, et où la communauté internationale, et l'Europe en particulier, montrent moins d'empressement. Donc je crois vraiment, et c'est tant mieux, si les réfugiés syriens en Turquie ont une chance, leur est donné une chance. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'Europe dans cette situation.
Un mot de conclusion à vous, Bayram Balci. Est-ce que vous êtes confiant quand même sur l'intégration de ces Syriens à long terme, disons,
absolument. Je suis absolument confiant. Ils vont rester, ils vont s'assimiler. Et je pense que ça va même être une richesse pour la Turquie. D'ailleurs, il y a déjà des processus de naturalisation, de passage à
la sécurité. Ça, c'est intéressant. On peut dire un mot de la question de la naturalisation.
Oui, effectivement, là aussi, je trouve que le président Erdogan, malgré son côté autoritaire et répressif contre les médias, par rapport à la question des réfugiés syriens, il a su faire preuve de générosité. Il y a déjà certains... La question est évoquée pour que certains puissent obtenir la citoyenneté turque, parce que tôt ou tard, ils vont rester en Turquie, ils vont devenir turcs.
Ça a quand même créé un tollé, certains l'accusant vouloir faire une réserve de force électorale.
Ben oui, mais en même temps, je trouve ça un peu trop facile, je trouve que c'est un peu malveillant de la part de l'opposition.
Oui. Oh, mais c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question, mais il serait forcément favorable à l'AKP qui les naturalise.
En même temps, si demain ils deviennent tous citoyens turcs, sur les 3 millions, il n'y a que 500 000 qui pourraient voter, qu'est-ce que c'est dans un pays de 80 millions d'habitants?
On est d'accord, c'est pas grand-chose et ça serait peut-être effectivement l'avenir de toute façon pour ces réfugiés syriens. Merci beaucoup Geneviève Jacques, Bayram Balci d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Crise des réfugiés en Turquie. Le nouveau modèle d'assistance européen. Reportage signé Marie-Pierre Véraud, réalisé par Annie Bro. À la technique ce soir, Anthony Thomasson. Merci à eux trois. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et la commenter sur notre site franceculture.fr.